Alors, tout notre parcours cette année est consacré à la croissance, la maturation. Et dans l'enseignement introductif, j'ai insisté sur l'unification de l'être. Donc, pendant ce week-end, comme ça a été annoncé, nous verrons davantage comment nous pouvons grandir et fructifier au travers des épreuves de la vie, grandes ou petites, dans la vie quotidienne. J'ai eu comme intuition de départ qu'il fallait nous inspirer de l'image de l'arbre qui est omniprésente dans l'Écriture. C'est pour ça que nous avons droit à un petit conifère, là. Il est petit, mais il va grandir pendant le week-end. Et je voudrais commencer d'abord en vous exhortant à être très, très simple et très libre, c'est-à-dire c'est l'unique maître, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous enseigner le chemin de la croissance. Et nous l'avons eu comme parole pendant la prière initiale. Le maître est là, il t'appelle. Et donc, mettons-nous vraiment à son écoute à lui. Pensons que si nous avons une lumière sur notre vie pendant ce week-end, ce sera déjà immense, une vraie lumière sur nous-mêmes, sur notre vie, sur ce que Dieu attend de nous. Et donc, je vous invite à ne pas chercher à tout comprendre, à ne pas rester au niveau donc, de l'intellect. Je voudrais commencer par dire une chose qui me semble de plus en plus importante à garder présent à l'esprit, c'est que l'essentiel, c'est ce que nous sommes, ce que nous devenons. C'est ça qui restera de notre vie. Le primat de l'être, que le magistère ne cesse de rappeler, le primat de l'être sur l'avoir, évidemment, mais le primat de l'être sur le faire aussi. La vraie réussite de notre vie, c'est nous, notre personne, qui est comme un morceau de bras, de marbre que Dieu sculpte, qui est surtout comme un arbre, nous le verrons, qui a besoin d'être cultivé, qui a besoin d'avoir des racines, qui a besoin de l'eau, qui a besoin du soleil. Je voudrais redire que en chacun de nous, il y a le besoin de faire des choses, c'est sûr, de réaliser. En lisant le père Thomas Philippe, j'ai mieux compris que l'âge adulte, c'est l'âge des réalisations. On a besoin de réaliser quelque chose. Mais il faut garder conscience en même temps que le vrai fruit de notre vie, il dépend fondamentalement de ce que nous sommes. Le bon arbre porte le bon fruit. Au-delà de ce que nous faisons concrètement. Et donc, il faut parier sur l'être. Il faut arriver à nous recentrer vraiment sur la qualité de notre vie et de notre cœur, surtout, parce que là est la racine. Et penser que Dieu, lui, fait de toute façon tout contribuer à notre sanctification. Il veut à tout prix notre croissance dans l'amour, dans la sainteté. Et que rien ne peut nous empêcher de grandir. Voilà la deuxième chose que je voudrais dire. Rien ne peut, ce n'est pas les circonstances extérieures, ce n'est pas les autres qui pourront jamais nous empêcher de grandir sur le chemin de l'amour. Et donc, ne nous trompons pas de combat. Il y a bien des choses qu'on ne pourra pas faire, qu'on aurait aimé réaliser, qui ne seront jamais possibles. Mais l'essentiel n'est pas là. Saint Jean Chrysostome commente la parole de Jésus, vous savez, sur le serpent, « Soyez prudents comme le serpent ». Il commente en disant que le serpent, il est prêt à tout perdre, sauf la tête. On lui coupe la queue, ça ne gêne pas trop encore. Continue à vivre. Et dit, ben nous, il faut près de tout perdre, sauf la foi et l'amour, quoi. Sauf ce que l'on vit, sauf notre vie intérieure. Alors, pour arriver à garder le cap dans notre vie sur la croissance et la vraie réussite de notre vie, nous avons besoin d'un regard de sagesse. Il s'agit de bien prendre les choses. Il s'agit d'épouser la sagesse divine, épouser la providence divine, qui fait tout concourir à notre croissance. Et pour ça, nous avons besoin d'un regard de sagesse d'abord sur l'homme lui-même. Comment être davantage? Comment grandir dans l'être si on ne sait pas ce que l'on est? Le drame de l'homme moderne, c'est qu'il ne sait plus qui il est. Ça se voit à travers les projets de loi. Ne sachant plus qui il est, bien, il ne peut pas arriver à s'édifier lui-même. Alors, pour... oui, je vais, dans ce premier enseignement, insister sur le fait que notre croissance est d'abord une croissance, essentiellement une croissance dans l'amour. Définitive, comme dit Benoît XVI, l'amour est tout. Il est tout pour nous. Ce qui fait la vraie maturité d'un homme, c'est sa maturité dans l'amour. Qualité de son amour. Mais cette croissance dans l'amour, elle est, et Benoît XVI insiste aussi beaucoup là-dessus, il a consacré une encyclique entière, Caritas in Veritate, la croissance dans l'amour, elle est aussi une croissance dans la vérité. Donc c'est ce lien amour et vérité qui va peut nous guider pendant ce week-end aussi. C'est un peu un fil rouge. Nous avons une deuxième chose sur laquelle je vais essayer d'être vigilant, c'est de bien distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Parce qu'on ne peut pas épuiser le peu d'énergie qu'on a dans des combats qui ne sont pas les vrais combats. Donc la sagesse, un regard de sagesse sur l'autre, un regard de sagesse sur la manière dont nous sommes appelés à coopérer à l'œuvre de la grâce. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Alors, je commence par ce point-là, précisément, avant d'essayer de poser un regard de sagesse sur l'homme. Je commence par ce point-là. L'homme moderne a peur de Dieu, peur de dépendre de Dieu. En fait, depuis le péché originel, on a une peur en nous de dépendre. Précisément, le péché originel a été une volonté d'indépendance sur fond d'une vision falsifiée et mensongère de Dieu. L'homme est devenu un danger pour l'homme. Je garde dans ma mémoire la question que Jean-Paul II a posée, si je puis dire au nom de l'humanité moderne. Il dit que l'homme, même s'il prie que ton règne arrive, parle pour nous donc, en fait s'oppose à sa venue, il la refuse même directement. Il semble dire, si en définitive Dieu sera tout en tous, que restera-t-il pour moi, homme, en tant qu'homme? Ce royaume de Dieu ne va-t-il pas absorber l'homme lui-même, l'anéantir? Peut-être cette question, nous ne l'avons pas clairement en conscience, mais regardez. Personne ne me disait encore hier que parmi toutes ses amies, il n'y en avait aucune qui désirait la sainteté, catholique pratiquante. Quand elle leur demandait « Mais toi, tu désires la sainteté ?» Oulala, un peu de Dieu n'est pas trop. Peur d'être absorbé, peur de ne pas pouvoir réaliser notre vie humaine avec ses attentes légitimes. Ça, c'est inscrit en nous que nous en ayons conscience ou pas, et nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous le redire. Eh bien, par rapport à ce désir d'indépendance qui est en nous, qui fait que nous voudrions nous édifier nous-mêmes par nous-mêmes, nous butons sur un fait dont on prend progressivement conscience au fur et à mesure qu'on travaille sur soi. C'est que l'amour est un don, que la vérité aussi est un don. Autrement dit, ce qui est essentiel à notre croissance, et de l'ordre du don. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer de nous-mêmes. Il existe un abîme entre notre capacité humaine d'aimer, nous en avons une, entre notre amour humain et la charité divine, l'amour divin dont nous avons besoin pour fructifier, pour grandir en vérité. Et le premier danger pour nous, c'est de nous faire illusion sur l'amour. Rappelez-vous ce que dit saint Paul, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Vouloir aimer est à notre portée, mais pas pour autant aimer. Et souvent, on confond notre vouloir aimer avec l'amour. On est tendu pour aimer, on veut aimer, et toutes ces forces, le désir de l'esprit est ardent, dit Jésus. Et c'est pas pour autant qu'on vit vraiment l'amour. En réalité, on confond la générosité et l'amour. Je reviendrai continuellement là-dessus. Il faut passer d'un vouloir aimer, s'appuyant sur nos propres forces, à un humble désir d'aimer. Du vouloir au désir, c'est-à-dire en réalité du vouloir à l'espérance. Parce que l'amour dépend de nous au sens où il dépend de nous de nous ouvrir. J'ai retrouvé une expression de Delubac, se disposer à s'ouvrir à l'amour. Il dépend de nous de nous disposer, de nous ouvrir à l'amour. Et encore, cette disposition en réalité sera toujours soutenue par la grâce. Parce que seule la grâce peut nous permettre d'accueillir la grâce. Mais Dieu nous donnera toujours la grâce pour nous ouvrir à son amour si au fond de nous-mêmes, vraiment, nous prononçons ce fiat, ce oui dans l'humilité et la confiance. Ça, c'est la première vérité fondamentale qu'il faut garder présent à l'esprit si on veut bien comprendre les lois de la croissance. La deuxième chose, c'est que la vérité elle-même est un don. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est voir les choses comme elles sont. C'est voir le tréfonds de la réalité. C'est la conformation, comme dit saint Thomas d'Aquin, de notre intelligence à la réalité. Et donc, dans l'Évangile, notamment chez saint Jean, l'intelligence est comparée à un œil. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient. Celui qui marche dans la lumière ne bute pas, il avance. Celui qui marche dans la nuit bute. L'intelligence est l'œil de l'âme. Eh bien, mes amis, un œil, il ne peut rien voir sans lumière. Il a la capacité de voir, mais sans lumière, il ne voit rien. Notre intelligence, c'est une capacité de voir, mais sans lumière, il ne voit rien. Et la lumière, c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie vérité. Quand j'ai dit de vraie vérité, c'est de vraie vision, de vraie perception, sans l'action de l'Esprit Saint. Le danger, là aussi, c'est que nous confondons la vérité avec les idées, avec l'intellect. On croit comprendre beaucoup de choses, mais en fait, on a beaucoup d'idées dans la tête surtout. Ça ne veut pas dire qu'on voit beaucoup de choses. On se fait illusion sur notre degré de vérité, si je puis dire. J'ai connu une personne qui, comme ça, avait une grande intelligence et surtout une très bonne mémoire, qui avait lu pratiquement tous les auteurs du Carmel, elle les connaissait beaucoup mieux que moi. Elle a mis 15 ans pour comprendre qu'en fait, elle ne voyait rien. Elle savait tout, mais elle ne voyait rien. Donc, elle ne faisait pas le chemin. Parce que la vérité qui nous sauve, la vérité qui nous transforme, c'est celle qu'on voit. Marc Robin avait parlé pour notre temps d'un état d'impuissance intellectuelle. On accumule de plus en plus d'informations, mais on est de moins en moins capable de penser en profondeur. On manque d'une pensée forte Et on manque d'une pensée forte parce qu'on manque d'une vision. Et la conséquence aussi, c'est le conformisme. Parce qu'on est de plus en plus dépendant des courants d'idées puisqu'on se situe au niveau de l'intellect. Et l'intellect, il est fragile, l'intellect, il se laisse influencer. On se perd dans les raisonnements. On se laisse convaincre par des raisonnements, en fait, qui sont fallacieux. Et donc, l'homme, dans sa prétention à ne pas dépendre de Dieu, au niveau de la connaissance, on arrive à un état d'aliénation. Et au niveau de la compréhension des choses et au niveau de la conscience, Jean-Paul II a parlé d'une anesthésie des consciences. La conscience, c'est un œil, c'est Paul VI qui le dit. La conscience, c'est un œil qui a besoin de lumière. Et actuellement, la conscience est de plus en plus enténébrée, au fur et à mesure que l'homme s'éloigne de Dieu. Et donc, en fait, on assiste à ce phénomène que les gens sont de moins en moins capables de porter un jugement de conscience personnelle. Ils suivent le courant dominant. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton propre entendement. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Laisse-toi éclairer de l'intérieur. Pensez que les vraies pensées, elles viennent de l'intérieur, d'une lumière intérieure. Elles viennent comme un fruit, d'une perception. Pour ça, Dieu a besoin que nous lâchions prise. D'ailleurs, pendant ce week-end, si on pouvait se vider un peu la tête de tous les raisonnements qu'on porte en soi, de toutes les idées, certitudes humaines, les lâcher, pour arriver à s'ouvrir vraiment à des perceptions nouvelles, des visions nouvelles de notre vie. Je trouve que le plus dur, vous voyez, c'est de changer sa vision des choses, d'arriver à s'ouvrir à des lumières nouvelles. J'accompagne à Paris depuis 7 ans des divorcés et m'ont dit que pour traverser l'épreuve, elles avaient été obligées de renoncer à leur vision du bonheur, à leur vision du couple, à leur vision de l'amour. Fait beaucoup de visions. Enfin, c'était pas des visions en réalité, c'était des idées, des idéaux. C'était le fruit de leur culture, de leur éducation. Et en réalité, l'une d'elles m'a dit, je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que l'amour ? Il fallait attendre le divorce pour qu'il y ait une petite ouverture, une petite faille, par où s'ouvrir à une vision nouvelle, plutôt à une vraie vision, dans la lumière de l'Évangile.
Juste une petite anecdote à propos du caractère un peu démiurgique que nous avons maintenant comme homme moderne. Je travaille au Sénat et la vie politique a ceci d'intéressant qu'elle révèle presque par excellence la vie humaine inconsciente qu'on a tous. Et il y a des périodes où ça devient spécialement net, je pense en particulier à la période où on a débattu des lois de bioéthique. La bioéthique, évidemment, ça dit des choses assez graves sur ce que nous sommes. Et je me souviens d'une conversation. Mon sénateur est devenu président du groupe UMP au moment de cette lecture des lois bioéthiques et j'ai évidemment tout de suite attiré son attention sur le problème qui avait qu'une partie non négligeable du groupe UMP était décidée à voter la recherche en embryon et un certain nombre de choses qui posaient des problèmes sérieux de dignité de la personne humaine. Et donc il me demande d'organiser une réunion avec le rapporteur qui était un très grand défenseur de la recherche en embryon. Et on se retrouve à une dizaine dans son bureau et le rapporteur explique pourquoi il faut absolument la recherche sur l'embryon, parce que la France est en retard, parce que la France perd du terrain sur la recherche scientifique, etc. Et puis, personne ne répond. Au bout de 5 minutes, je commence à vous dire un peu. Au bout de 5 minutes, je dis, écoutez, monsieur le rapporteur, vous savez très bien que ce que vous dites est faux. On peut très bien faire de la recherche sur les cellules souches sans détruire des embryons. Il y a des cellules souches adultes, ça existe, on peut faire de la recherche. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est deux comportements complètement contradictoires. Le premier, c'est qu'il a reconnu avec une simplicité désarmante, un grand sourire. Il me dit, vous avez raison. Mais ça n'avait aucune prise sur lui, c'est-à-dire qu'il s'en fichait éperdument. Et donc il a fait un grand sourire et il a continué à tenir exactement le même discours. Donc je suis revenu à la charge. Et la deuxième fois que je suis revenu à la charge, j'ai vu quelque chose de tout à fait impressionnant. C'est qu'en fait, ce qui lui importait là-dedans, c'était pas tellement d'avancer sur la recherche scientifique, c'était de montrer qu'on était capable de dominer l'homme. Et on voyait vraiment ce que le père Louis disait à l'instant sur le lien entre amour et vérité d'une part et la volonté de domination qui vient de l'indépendance de Dieu, c'est tout à fait frappant. Et je crains que nous soyons tous un peu, parce que nous sommes tous des hommes modernes, même si on ne veut pas, nous soyons tous un peu dans cette disposition d'esprit. Alors évidemment, on n'en est pas tous au point de vouloir faire des destructions d'embryons pour le plaisir, mais je pense que cet exemple un peu extrême nous révèle un peu ce que nous sommes aussi comme hommes modernes. Nous prenons l'habitude de nous mentir à nous-mêmes et nous prenons l'habitude d'être nos propres maîtres.
Voilà. Oui, le fait de refuser d'être dépendant de Dieu fait qu'on se vit comme maître, maître de notre vie, mais aussi ça favorise un esprit de domination, pas simplement sur nous-mêmes, mais sur les autres. L'amour, oui, l'amour et la vérité ne peuvent être fabriqués, dit Benoît XVI, ils peuvent seulement être accueillis. Ce principe est très important pour le développement, très important pour notre croissance. Si nous voulons croître en Dieu et par Dieu, il nous faut revenir sans cesse à cette dépendance dans l'ordre de l'amour et de la vérité. Une dépendance qui, vous l'avez compris, nous conduit à la vraie liberté. Parce que seul celui qui voit les choses dans la lumière qui vient de Dieu est un homme libre dans sa pensée. Il ne se laisse pas baloter par des faux raisonnements. C'est ça la maturité intellectuelle. C'est la capacité à penser par soi-même. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste, dit Jésus, aux foules qui se laissaient influencer par les pharisiens. Le Concile nous dit que le Christ est venu nous restaurer dans notre liberté et notre force. Et pour être restauré dans notre liberté et notre force, force d'aimer, force de penser, nous avons besoin de redécouvrir notre dépendance à Dieu, de retrouver le sens de la passivité au sens d'une réceptivité aimante dans laquelle on se laisse d'abord faire, aimer, toucher. Alors, pour mieux comprendre cela, nous allons maintenant jeter un regard de sagesse sur l'homme. La manière dont nous nous voyons nous-mêmes va conditionner notre vie. L'homme qui perd le sens de sa transcendance est un homme qui se met lui-même sur la pente, sur le chemin d'une aliénation, d'une dépendance aux choses. Nous avons besoin de retrouver le sens de notre dignité, de notre grandeur, pour nous libérer des déterminismes. C'est une conviction de Jean-Paul II. Précisément, il a consacré son pontificat à rappeler que le Christ, en révélant Dieu à l'homme, révélait l'homme à lui-même. Il révélait l'homme dans sa grandeur, dans sa dignité, de manière qu'il ne se laisse plus dominer par des mécanismes, par des déterminismes économiques de toutes sortes, et qu'il puisse être à nouveau l'acteur de sa vie. Et ici, je dirais que tout homme a sa petite philosophie, inconsciente le plus souvent. C'est ainsi que l'Écriture laisse parler les impies. Courte et triste est notre vie. Il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme. On ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès. Qu'elle s'éteigne, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dispersera comme l'air inconsistant. Je me souviens, on avait interrogé un ancien bourreau nazi, et en fait, c'était un dialogue avec son fils, et il lui expliquait à son fils que l'homme, finalement, c'était peu de choses, peu de valeur, inconsistant. Et donc, conclusion. La violence, le péché, se nourrit du mensonge. Se nourrit du mensonge sur l'homme, surtout. Alors, l'Église dit que le Christ nous sauve aussi, donc en révélant l'homme à lui-même, et qu'il y a dans l'Évangile une vérité sur l'homme, avec Benoît XVI insiste sur une vision globale de l'homme. Alors, avant d'enclencher sur l'image de l'arbre, je voudrais parler de l'homme selon le langage plus philosophique. Pour définir l'homme d'abord comme un esprit, la personne est esprit, un esprit incarné. C'est bien de penser l'homme avec le vis-à-vis des anges, des esprits purs. Quand on dit esprit, on dit quelque chose qui est à l'image de Dieu, qui est esprit. En disant l'homme est un esprit incarné, on dit quelque part déjà qu'il y a une soif en lui, soif d'infini, qui est inscrite en lui, qui est en définitive, soif de Dieu. Cet esprit, il est fait pour voir Dieu. Et cette vision de Dieu, elle est inséparable de l'amour. C'est dans l'amour seulement que nous pouvons voir Dieu. Et donc il y a en homme, dans l'homme deux soifs. Soif d'un amour inconditionnel, d'un amour absolu, je reprends des expressions de Benoît XVI, et soif de la vérité ultime, définitive qui est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est à la fois amour et vérité. Alors, ce qui apparaît en premier, pensons à l'embryon. Ce qui apparaît en premier, c'est notre dépendance à l'amour, cette soif d'amour. L'expérience de l'amour est première. Je voudrais simplement souligner ici que l'expérience, la soif de l'homme, on peut discuter sur cette question-là, mais la soif de l'homme n'est pas simplement une soif d'être aimé, l'expérience d'un amour qui nous est offert, mais peut-être que plus profondément encore, nous avons la soif d'aimer nous-mêmes. Et que les personnes, je pense à des personnes qui subissent le divorce, je pense que l'angoisse la plus profonde de ces femmes, que depuis 7 ans j'écoute, il y a quelques hommes aussi, C'est l'angoisse de se dire que ce ne sera plus possible d'aimer. En fait, c'est ça qui a poussé certaines à penser le suicide. Parce que je pense que c'est ça la soif la plus enracinée, qui est en même temps liée à cette soif de vérité, c'est de voir Dieu possible que dans l'amour. L'amour, c'est une force unitive. Et l'homme vit de relation, il vit d'union. Et Dieu est amour, nous sommes créés à son image, donc nous sommes créés pour aimer. Et aimer d'un amour pur, d'un amour total, d'un amour absolu, ça nous en sommes pas capables de nous-mêmes. La situation essentielle de l'homme, la situation d'où proviennent toutes ces contradictions, toutes ces espérances, c'est que nous désirons, comme dit Benoît XVI, en quelque sorte, la vie elle-même, la vraie vie, cette vie d'amour, qui est en même temps une vie dans la lumière, la vérité ultime, et en même temps, nous ne connaissons pas ce vers quoi nous nous sentons poussés. Autrement dit, nous avons en nous un désir d'un amour et d'une vérité qui dépasse ce dont nous avons d'expérience sur terre. Ce désir, il est le plus souvent refoulé en nous, mais il est là, au fond de notre être. Et c'est ça qui pousse à toutes les, qui amène à toutes les dérives. Parce que quand on ne peut pas se diriger vers la vraie source et recevoir de Dieu ce pourquoi nous sommes faits, eh bien, à ce moment-là, on tombe dans toutes les formes d'idolâtrie. Sur fond de cette soif d'un amour absolu, d'une vérité absolue. Donc on pourrait dire ici que le drame de l'homme moderne, c'est de ne pas reconnaître la soif de la vie éternelle qui est en lui, qui est inscrite en lui. De nier le besoin d'adorer Dieu qui est inscrit en lui. Voilà, je voudrais terminer ce premier regard sur l'homme en disant que pour moi, la maturité, voyez, dans notre vision de l'homme, un regard de sagesse sur la personne, c'est quand il nous est donné de voir de plus en plus l'autre comme une personne, voir l'autre comme personne, comme aimait dire Jean-Paul II, d'être de plus en plus facilement, si je puis dire, spontanément en contact avec sa réalité en tant qu'esprit. Je dois dire que je ne m'explique pas entièrement pourquoi, mais personnellement, là où je sens plus ce contact avec l'esprit, c'est quand je suis en contact avec de très grands handicapés. Peut-être je l'ai ressenti aussi fortement en contact avec des personnes en état de coma, enfin, des personnes mourantes, de ressentir l'esprit qui est là. Peut-être parce que à ce moment-là, les personnes sont dépouillées au niveau de l'intellect et sont dépouillées aussi même au niveau de l'affectivité. Il n'y a plus que le cœur profond et l'esprit qui gémit. L'esprit qui a soif. Anne-Claire, tu pourrais dire quelques mots de Philippine. Et je crois que tu m'avais dit quand il y avait la louange, elle est sourde. Non?
Philippine, elle est sourde et aveugle, ou du moins on sait ce qu'on pense, parce qu'on ne sait pas trop jusqu'à quel point. Elle n'a pas de cortex cérébral, donc même si elle a des yeux et des oreilles, il n'y a pas ce qu'il faut dans le cerveau pour décrypter. Et quand on prie avec elle, très souvent, elle n'a plus du tout la même attitude que quand on ne prie pas. Ça se manifeste, elle nous a fait le coup de temps en temps de rythmer, quand on chantait, de rythmer la louange ou la prière dans le bon rythme. Alors on se dit, elle doit percevoir des ondes, on peut vivre comme ça, mais elle ne le fait pas quand on chante des chants profanes. Donc on a constaté qu'elle a aussi un comportement à l'église très particulier au moment de la consécration. Elle perçoit forcément des choses quand elle communie aussi, puisqu'elle a eu la chance, nous avons eu la chance, nous plutôt, de l'avoir communiée très tôt. Et elle a vraiment, au moment de la communion, une paix et elle irradie quelque chose. Donc voilà. Mais tout ça, c'est. Bon, on reste sans voix, hein. On ne peut que constater, point.
Sophie Lutz, sa maman, me disait que, elle dit ça au début, je ne sais pas si c'est toujours comme cela, mais Philippine, quand sa maman voulait lui donner à manger d'une manière un peu nerveuse, un peu pas en étant entièrement présente, elle n'ouvrait pas la bouche. Se nourrit d'abord d'amour. Je ne pouvais pas recevoir une autre nourriture avant d'être d'abord nourri d'amour. Ça, c'est l'esprit, c'est le cœur. Et là, on touche du doigt la dignité de la personne, sa grandeur, dépouillée de tout le reste, de toutes les apparences. Alors, en chacun de nous, il y a une petite Philippine. Enfin, en chacun de nous, il y a un petit enfant qui n'est assoiffé que d'amour. Il y a un esprit qui a soif d'une vérité totale, qui a soif de lumière. Et puis il y a tout ce qu'on a construit autour. Il y a toute notre personnalité psychologique, il y a notre intellect, tout cet univers d'images, de représentations, d'idées. On voit des gens qui ont un bagage intellectuel, savent plein de choses, transportent ça toute leur vie, ça pèse lourd, surtout ça les encombre beaucoup. Puis la soif de l'esprit, elle est complètement étouffée. Plus de place pour la lumière, il n'y a plus de place pour l'amour qui vient de Dieu, parce que l'homme vit à la superficie de lui-même et il devient autosuffisant dans ses fausses richesses. Et voyez ça, la manière dont on regarde soi-même. Quand on regarde ce que c'est que la vraie beauté d'une vie et d'un homme, ça conditionne énormément notre vie. Parce qu'on porte tous en soi une certaine image de ce qu'on devrait être. Une fois, j'avais posé la question, c'était des jeunes chrétiens, j'avais fait un exposé sur la souffrance, et à un moment, je me suis arrêté parce que j'avais pris la parabole de Lazare et du mauvais riche. Et j'avais posé la question, qu'est-ce que vous préférez être, Lazare ou le mauvais riche? Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Tant quand on lit la parabole, on se dit, mais enfin, la meilleure place, c'est quand même Lazare. Et non, il n'y avait rien à faire, ils n'arrivaient pas à la choisir. Hein? La pensée que cette vie n'est qu'un court passage et qu'après il y a une éternité, soit de bonheur, soit d'horreur absolue, les ébranlait pas. Mais surtout, je crois que ce qui ne percevait pas, c'est que dès cette vie, le plus grand, le plus digne, c'est Lazare. Le plus beau, c'est Lazare. L'homme mûr grandit au travers de la souffrance, même s'il est handicapé, même s'il ne possède plus rien, même s'il est mutilé de toutes sortes par les hommes, Il y a cette grandeur intérieure proprement de l'esprit, du cœur, qui est la vraie richesse. Ça, il faut le croire. Regardez, j'ai ici les paroles de Van Thuan. Je parlerai de Van Thuan encore, le cardinal vietnamien qui a été pendant 13 ans dans les camps. Il parle à un ami, je ne sais pas si c'est une lettre, que l'échec ne te fasse pas perdre courage. Si véritablement tu as cherché la volonté de Dieu, cet échec est déjà un succès. Cela que voulait le Seigneur. Regarde le Christ sur la croix. Fais la différence entre le succès et la véritable réussite. Les résultats ne sont peut-être pas visibles, mais ton expérience, ta modestie, ta foi au Seigneur se sont enrichies. Voilà la véritable réussite pour un regard surnaturel. C'est toi, tu as grandi intérieurement. Ton cœur s'est affermi dans la foi, dans l'espérance. Ton esprit s'est ouvert à des lumières nouvelles. Tu as échoué dans ce que tu voulais faire, tu n'as pas réussi aux yeux des hommes, tu as grandi. Voilà, ça c'est la sagesse. Quand on a passé 13 ans dans les camps, on peut dire ça, en toute vérité.
Cette semaine, et je me dis que d'être enfant, un jeune enfant qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore échafaudé tout un tas de projets pour sa vie, il n'a pas d'objectif précis, ben les enfants sont plus dans la sagesse, dans la vérité quelquefois que nous. Mon grand-père a été sauvé in extremis à l'hôpital, et alors je dis à mes enfants, ben vous voyez, grand-père a failli mourir là cette semaine. Et mon fils me dit, bah, et alors ? Je dis, bah, et alors ? Il a failli mourir. Bah, et alors ? Il me dit, bah, il sera plus heureux après, il sera auprès de Jésus, mais presque sûr qu'il sera auprès de Jésus. Et je me dis que les enfants, du fait qu'ils ne s'échafaudent pas tout un tas de qu'ils ne se construisent pas des montagnes à atteindre, sont plus en ligne directe.
Alors je termine sur ce premier regard sur l'homme en rappelant que l'homme est un esprit, mais un esprit incarné, et il n'a qu'une seule nature, il n'a pas deux natures, une nature spirituelle et une nature corporelle, mais il n'a qu'une seule nature qui est à la fois spirituelle et corporelle. C'est-à-dire que Dieu a voulu que notre esprit, à la différence des anges, soit dépendant de la matière, notre vie spirituel, cette manière, enfin, oui, dépendant de la matière. En tout cas, il y a une unité profonde entre le corps et l'esprit. À la fois, on voit le primat de l'esprit par rapport à la matière, et en même temps, du fait de cette unité entre le corps et l'esprit, l'homme ne peut se réaliser comme être spirituel sans accueillir son corps, c'est ça surtout le point, sans s'accepter lui-même dans sa dépendance au corps, qui veut faire l'ange fait la bête. Et l'homme moderne en réalité veut faire l'ange, et en voulant faire l'ange en réalité, comme c'est le principe des pères de l'Église, quand l'âme n'est pas soumise à Dieu, le corps n'est pas soumis à l'âme. À ce moment-là, cet esprit qui voudrait s'élever au-dessus de son, comment dire, conditionnement corporel, des lois du corps, des lois naturelles inscrites en lui, au niveau de son corps, cet esprit, en réalité, se retrouve profondément humilié parce que c'est la chair qui l'emporte sur l'esprit.
Juste cette réflexion me fait penser à une très très jolie réflexion de saint Thomas d'Aquin dans le compagnon de théologie. Il dit une chose qui est tout à fait surprenante alors évidemment avec toutes les nuances possibles et imaginables, mais il dit les âmes de bienheureux attendent avec impatience la résurrection des corps. Les âmes de bienheureux, par définition, pour nous, elles sont bienheureuses, elles voient Dieu face à face, et pourtant, elles ne sont pas encore personnes complètes, puisque leur corps n'est pas encore ressuscité. Elles attendent, et donc il dit, d'une certaine façon, elles sont malheureuses en attendant les... Alors, le d'une certaine façon, évidemment, est décisif, mais il faut être pleinement uni à mes corps pour être pleinement homme, et donc pour atteindre un bonheur humain, et même dans l'éternité, on aura un bonheur humain. Pour un bonheur humain, il faut un écor.
Bon, on reviendra sur cette question de notre relation au corps au prochain enseignement, le samedi, sur l'amour de soi et le renoncement à soi. Je voudrais simplement insister que par rapport à l'unification, vous voyez, le psychisme est à la frontière entre le monde corporel et le monde spirituel. L'homme est essentiellement duel, à la fois spirituel et corporel. La nature humaine est duelle, c'est pas le tripartisme, pas trois parties, mais il y a deux composantes essentielles, une spirituelle et une corporelle, et puis il y a le psychisme à la frontière. Et si on veut opérer l'unification de notre être, évidemment, il faut pouvoir intégrer cette vie psychique, qu'elle soit intégrée dans la vie de l'esprit, que ce soit l'esprit qui anime, qui... comme dit, assume, comme dit le catéchisme, les passions et les ordonne à la béatitude. Nous retrouvons ici la question de l'unification. Dans la vie chrétienne, dit le catéchisme, l'Esprit Saint lui-même accomplit son œuvre en mobilisant l'être tout entier. L'homme mûr, c'est un homme qui se vit dans son unité, qui s'accueille lui-même dans toutes les dimensions de son être et qui, dans l'acceptation des lois naturelles inscrites en lui, trouve la source d'une nouvelle force, d'une nouvelle liberté. Et si nous voulons comprendre comment cette unité peut se réaliser de l'intérieur. Il nous faut mettre en évidence maintenant ce fond de l'être, ce noyau profond, comme dit Benoît XVI, qui est le cœur. Et c'est là que l'image de l'arbre va nous éclairer. L'homme est un arbre, ça veut dire d'abord qu'il dépend de ses racines. La racine de l'homme, c'est son cœur. Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. L'image de l'arbre nous aide à comprendre à la fois le primat de la grâce. Sans courant, sans eau vive, l'arbre meurt. Et en même temps, le primat de la vie intérieure, le primat de l'esprit, le primat de la vie intérieure, le primat du cœur. Et il nous aide à comprendre aussi que nous sommes faits pour nous ouvrir, pour capter, pour recevoir, comme la racine qui puise, qui vient, je dirais, s'alimenter, alimenter notre être. Donc tout ça se fait de l'intérieur. Voyez aussi, l'image de l'arbre nous dit que l'homme s'ouvre à autre chose que lui, à l'autre, à Dieu d'abord, mais aussi aux autres, à partir de ce qui est le plus caché et le plus intime en lui. La capacité d'ouverture en nous, elle est dans notre cœur d'abord. Ça Ça veut dire aussi que on ne peut pas se trouver soi-même, trouver son intériorité, sans s'ouvrir à Dieu et aux autres. On ne se trouve pas soi-même en restant centré sur soi. Cœur signifie dans le langage de la Bible le centre de l'existence humaine. La jonction entre la raison, la volonté, le tempérament et la sensibilité. Où la personne trouve son unité et son orientation intérieure. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, gâté, ni inversement d'arbre gâté, pourri, qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. L'homme mauvais, littéralement du mauvais, produit le mauvais. L'homme qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais, car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. L'homme est un arbre, il dépend, c'est en Luc 6, hein, 43-45. L'homme est un arbre, c'est une parole de sagesse du Christ lui-même, et les fruits, ce sont ses paroles, ses actions. La racine des actes du catéchisme, c'est le cœur. Alors vous voyez cette image de l'arbre qui puise sa sève. Alors sa sève, c'est la sève vitale de l'Esprit Saint, esprit de vérité et d'amour, la lumière et l'amour qui puise, qui est appelé à puiser dans le cœur de Dieu, la sève vitale qui va irriguer, traverser tout son être pour lui permettre de porter du fruit. On pourrait dire que le tronc de l'arbre, c'est notre nature essentielle, spirituelle et corporelle, et que les branches, ce sont nos facultés. De là découle la possibilité de produire des œuvres. Mais même si les facultés sont abîmées, même si elles sont très affaiblies, comme dans le cas de personnes polyhandicapées, vous voyez qu'il y a un fruit malgré tout. Parce que la grâce est plus forte que la nature, comme dit saint Thomas d'Aquin. Elle traverse la fragilité humaine et elle se déploie, la puissance de la grâce se déploie dans la faiblesse. Le tronc, je dirais que c'est la nature corporelle, c'est l'homme dans ce qu'il est essentiellement. On peut perdre beaucoup de facultés, il reste quand même une nature qui est là. Philippine, elle a la même nature que nous, mais il y a des facultés qu'elle n'a plus. Donc, nous avons besoin de vivre et d'agir en gardant conscience du primat du cœur, comme le lieu de l'ouverture, comme le lieu de l'orientation profonde de notre être. Nous avons besoin, comme dit saint Paul, de fortifier l'homme intérieur et de découvrir ce lieu secret du cœur, de découvrir nos racines profondes pour devenir vraiment ce que nous sommes. Pour nous édifier nous-mêmes de l'intérieur. L'homme mûr, c'est un homme intériorisé, qui est descendu dans ce lieu secret et qui s'y est installé, qui fait qu'il peut tout vivre, comme on dit, avec le cœur. Avec le cœur profond, vous avez bien compris que je parle d'autre chose que de l'affectivité, qui est au niveau psychique. On peut avoir un cœur, être un homme de cœur et être assez sec au niveau affectif. On peut par contre être un grand sentimental et être très dur de cœur. paraît que les chefs des camps de concentration nazis aimaient beaucoup les petits animaux, avaient beaucoup de tendresse pour les petits animaux et aimaient beaucoup la belle musique. Vous voyez, des gens très sensibles. Ça, ça ne gêne pas le démon. L'affectivité molle, le sentimentalisme, ça ne gêne pas le démon. Si on peut rester englué là-dedans, tant mieux. Sans jamais descendre dans son cœur profond. Pour y entendre l'appel de Dieu et s'ouvrir à la grâce. L'image de l'arbre nous dit que il y a un mouvement en nous vers le haut. L'arbre, il s'élève. Il est fait pour s'élever. Et qu'en même temps, il doit y avoir un mouvement vers le bas. Et que plus un arbre, il est haut, et plus les racines doivent être profondes. Mes amis, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser de l'écriture. Attention. Plus tu as de capacité, plus tu t'es élevé par l'expérience, par l'acquisition d'une certaine sagesse. Et plus il faudra veiller à la profondeur de la racine. Humilité, je crois, ça vient d'un mot qui touche à l'humus, la terre. Être en contact avec la terre. Être en contact avec notre impuissance. La terre, elle est stérile, sans la semence et sans la pluie. Être en contact avec notre dépendance totale à Dieu, radicale à Dieu. En même temps qu'on s'élève, qu'on grandit, toujours faire attention aux racines. Et d'abord les racines. Écoutez saint François de Sales. Au témoignage de saint Jacques de Chantal, saint François de Sales disait qu'il était bon de ne rien entreprendre qu'après avoir été longtemps caché en terre et mort à soi-même. Et qu'alors on sera tiré et manifesté comme par force, je dis par la force du soleil de justice, qui fait lever et manifester les choses de la terre. En pensant à ça, je pense à un fondateur de la communauté à laquelle j'appartiens, Pierre Coursat, qui, m'a-t-on dit, était considéré un peu comme un raté dans sa famille, parce qu'il n'était ni prêtre, ni marié, qu'il a vécu une vie, on peut dire, assez cachée, jusqu'à la fondation de la communauté de l'Emmanuel. Je laisse...
Sur l'ancien Pierre, sa vie cachée.
Je ne me suis pas tellement préparée à parler, mais c'est vrai que moi j'ai connu Pierre avant qu'il ne fonde la communauté. Et j'ai cru en lui parce que c'était quelqu'un qui était. Qui ne parlait jamais de lui, qui était tout tourné vers les autres et vers Dieu. Et j'ai compris avec le recul que c'était vraiment quelqu'un d'unifié. Mais ce qu'il aimait, c'était ce qui demeurait caché. Et d'ailleurs, il a fondé la communauté, mais très souvent, il était allongé sur son lit. Il n'était jamais devant de la scène, dans les grandes sessions, de Paris, comme par hasard, quand il y avait des choses importantes qui se passaient. Lui, il était tout fragile sur son lit. Et moi, je me souviens, j'avais à peine 20 ans. Je l'ai connu petit enfant, mais je l'ai surtout connu à l'âge de 20 ans, quand j'allais pas bien. Moi, je suis un peu une paumée de pierre. Je me rends de plus en plus compte que j'étais vraiment paumée. Et ce que je voulais dire, ce qui me frappait, c'est que j'étais sûre de lui, je sentais un roc. Et moi, intérieurement, je me disais, mais je suis sûre de Pierre, il n'y avait pas de communauté à l'époque, et je veux le suivre. Parce que j'avais été attirée par cette simplicité, cette pauvreté de cœur, et en même temps cette force. Je sentais quelqu'un de fort, d'énergique. Je me souviens quand il allait faire son temps de prière, il y avait un menton très volontaire. Pardon. dans sa morphologie, il avait un menton, vous voyez ce que je veux dire, un menton volontaire. Hein ?
Oui.
Et donc, j'ai compris, là encore, c'est toujours après coup hein, qu'on comprend les choses, j'ai compris que c'était un effort pour lui d'aller prier. Il fallait qu'il lâche, qu'il arrête ce qu'il faisait, ou pour se mettre en présence du Seigneur. Et moi, ça m'aide beaucoup, parce que c'est pas facile d'aller prier tous les jours, régulièrement, et je me souviens de Pierre qui avait vraiment ce combat, ce courage d'être fidèle et d'aller demeurer en Dieu. Voilà, ce que j'aurais pas de choses à dire, mais ça suffit.
Voyez, je connais François qui parlait du rock. C'est le rock, c'est le cœur. De sentir cette force intérieure, cet homme intérieur fortifié. On peut s'appuyer que sur les hommes de cœur. On sait que là, c'est solide. Les racines sont solides. Alors, suivre un chemin d'intériorité, fortifier l'homme intérieur, c'est évidemment donc d'abord veiller sur son cœur. Je vous rappelle le livre des Proverbes, « Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, car c'est de lui que j'ai vu la vie. » C'est tellement facile de rester à la superficie de soi. Un style, une superficialité facile, comme dit Benoît XVI. Nous sommes tous plus ou moins prisonniers de cette. Enfin, tous plus ou moins baignés dans un monde qui nous pousse à la superficialité, qui nous prend au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'intellect, et qui nous amène à quitter l'intériorité. En fait, souvent, on se croit actif parce qu'on fait beaucoup de choses, mais en réalité, on est passif parce qu'on se laisse conduire par nos passions. On est passif au mauvais sens du terme. Alors que si on était parti de cette passivité aimante qui est dans le cœur, qui est réceptivité au don de l'amour et de la vérité, si on avait accepté de descendre dans cette passivité aimante, on serait réellement actif, c'est-à-dire qu'on agirait de l'intérieur, à partir d'un cœur ouvert, d'un cœur éveillé, d'une intelligence ouverte, éveillée. C'est comme ça que l'homme s'édifie et grandit de l'intérieur, en posant des actes vraiment libres, qui viennent du cœur. L'homme mûr, c'est un homme qui sait que la question n'est pas d'abord dans sa vie, pour réussir sa vie, n'est pas d'abord dans les circonstances, dans les choses à changer, dans les personnes autour de lui à changer. Là, récemment, une personne de ma paroisse, j'ai été alerté par la petite fille, voulait divorcer. Elle voulait divorcer, pourquoi ? Parce qu'elle m'a dit, mais moi je ne peux pas me réaliser, j'ai besoin de me réaliser, mon mari ne comprend pas, il faut que je me réalise. Et je suis resté avec la maison, avec les enfants, maintenant il faut que je me réalise. Vous voyez ? Et j'ai dit, mais c'est quoi vous réaliser ? Vous allez vous réaliser en quoi ? Puis je lui ai parlé de la souffrance des personnes divorcées que je connaissais. Je l'ai amené à prendre conscience qu'en réalité, ce qui était le plus précieux, c'était les relations avec les autres, qu'elle allait déclencher une guerre terrible, que tout le monde en souffrirait. Et puis surtout, se réaliser, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache une pression terrible du monde. Si on n'a pas un travail, on n'existe pas. Alors, elle était à la superficialité de son être, et elle était prise dans une inquiétude et une angoisse à vouloir réaliser quelque chose qui en réalité ne correspondait pas à ce qu'elle était vraiment ni à ses vrais désirs. C'est comme ça qu'on peut divorcer pour rien. Enfin, pour rien de consistant, de réel, profondément. Alors finalement, je les ai rencontrés, je leur ai parlé, bon, ils sentent que, je vous rassure, ça s'arrange, mais ce qui m'a frappé, c'est cette espèce de fantasme comme ça, il faut que je me réalise. Mais c'est tout dans la tête. En fait, en réfléchissant avec elle, et puis progressivement, elle revient à elle-même, et elle se rend compte qu'elle a les éléments dans sa vie telle qu'elle est pour réussir, pour vraiment se avancer, pour aller de l'avant. Et ce que je vous dis ça, c'est parce que souvent, on vit des situations dans lesquelles on met la faute sur les choses, sur l'autre, sur les choses, sur les circonstances. En réalité, tout dépend de la manière dont on les vit, dont on les voit d'abord et dont on les vit. Et qu'encore une fois, comme je l'ai dit au début, il n'y a rien qui pourra nous empêcher de grandir et de réussir notre vie en profondeur parce que nous sommes, parce que nous devenons, si nous situons le combat au niveau du cœur, ce chemin intérieur. L'homme sage, il sait profiter de tout pour grandir, pour aimer davantage, pour connaître davantage, pour accéder davantage à la vérité.
Concrètement, quand on est affronté à quelque chose de difficile, il y a des choses qui marchent. J'ai vécu ça un petit peu ces derniers temps. Je vais témoigner d'une petite chose. Un soir, avec mon mari, on est affronté à pas mal de difficultés en ce moment, des difficultés matérielles. Donc c'est un peu humiliant d'être dépassé par les situations matérielles difficiles. Et en fait, un soir, on se frittait puisqu'on n'était plus d'accord on n'arrivait plus moyen de se comprendre. Et donc, on s'est dit, bon, on va se mettre devant notre icône, tous les deux. On a pris un fauteuil pour que ce soit confortable parce que comme la dispute était violente, on s'est dit, ça va être long. Alors, on s'est mis tous les deux devant notre icône, un fauteuil chacun. Et puis, on a dit à Jésus, bon, ben, maintenant, on va discuter à trois, quoi. Et donc, au bout d'un moment, on était un petit peu, tous les deux, un peu bécassons, et puis on ne savait plus trop quoi dire, parce qu'en se mettant devant Jésus, il y avait pas mal de choses qui dégringolaient, qui n'étaient plus très sérieuses. Et puis, voilà, on est resté une heure et demie, finalement, devant l'icône, on a ouvert la parole de Dieu, on est tombé sur le psaume 3, et verset par verset, on s'est demandé tous les deux de quoi on se repent. Qu'est-ce qui n'est pas juste, et pour travailler vraiment dans notre cœur, comme dit Louis. Si ça se passe au niveau du cœur, l'eau, elle est dans la parole, l'eau ou la sève qu'on va piocher, elle est dans la parole, et donc verset par verset, on a pu noter tous les deux, puis on notait parce qu'on s'est dit, quand on va aller se confesser, de toute façon, on va oublier tout. Alors, on notait verset par verset, en demandant la lumière au Seigneur sur là où on péchait. Et au bout d'une heure et demie, on était d'accord. On était d'accord vraiment sur le sujet de départ, et parce que vraiment le Seigneur a purifié notre cœur. Et en purifiant notre cœur dans la prière, notre regard a changé. Et on s'est rendu compte que, ben voilà, on avait tous les deux des torts, et puis qu'on voyait plus clair, et voilà, et on a retrouvé la paix.
Il n'y a pas de changement profond dans notre vie sans un changement profond dans notre cœur. Il faut accepter de dépendre, je dirais, d'un travail de conversion intérieure qui doit se refaire chaque jour. Le catéchisme dit une très belle parole, il dit que le cœur, c'est là où tout se noue et se dénoue. C'est la clé. La vraie solution au problème, elle n'est pas à aller chercher à l'extérieur de moi. Elle n'est pas à chercher dans mes calculs, mes raisonnements et mes stratégies. Elle est à chercher à l'intérieur. Une manière nouvelle de voir et une nouvelle qualité d'amour. Croire à l'amour, c'est croire à cette vie intérieure, à ce jaillissement de la vie, de la grâce à partir de notre cœur profond, comme un fleuve qui est capable de tout transformer, un courant. De penser notre cœur comme une source d'où doit jaillir continuellement le courant de la grâce, encore une fois, qui emporte tout sur son passage, qui finit par transformer la réalité extérieure. Voyez, par exemple, je fais une démarche de pardon vis-à-vis d'une personne. Je n'ai pas travaillé sur mon cœur. Au fond de mon cœur, je garde quand même un peu de colère. Ben, il ne se passe rien. Je peux écrire une très belle lettre, hein, trouver des très, très beaux mots, demander conseil à plein de gens pour savoir comment prendre la personne avec sa psychologie et tout ça. Si dans mon cœur ça ne bouge pas, il ne se passera rien. Du temps perdu pour l'amour. L'homme qui n'a pas de racine en lui-même, dit Jésus dans la parabole du semeur, vous voyez la terre qui n'a pas de profondeur. Ça pousse un temps et puis après ça se dessèche. C'est l'homme qui, au moment de l'épreuve, défaille. Parce qu'il est dans une fausse vision de sa destinée. Il s'est appuyé sur ses propres forces. Il s'est fait créer toute une vie dans son intellect, tout un idéal de lui-même, tout un projet, tout ça. Puis tout ça, j'ai pas envie de dire que c'est du pipeau, mais c'est complet, c'est creux. Il manque la conversion. Et vient l'épreuve, il défaille. Il est comme ces grands résineux, majestueux. J'ai vu l'impie dans sa puissance se déployer comme un cèdre vigoureux. Il est passé, voici qu'il n'est plus. C'est les premiers arbres à s'écrouler dans des tempêtes. Parce que les racines des résineux, ça ne dépasse pas 5 mètres. Alors que, on y reviendra, la vigne, elle va jusqu'à 20 mètres. Alors qu'elle est beaucoup plus petite dans ses racines. Donc, n'admire pas les œuvres des pécheurs. Confie-toi dans le Seigneur, tiens-toi à ta besogne. Ayons le courage de parier sur ce qui est caché, comme l'a fait Pierre Goursat, qui a le courage de paraître insignifiant aux yeux de ceux qui jugent la vie selon les apparences. Et ici, vous voyez qu'une des difficultés par rapport au chemin de l'intériorité, c'est le regard des autres. C'est de vivre sous le regard des autres. Combien de personnes sous ma paroisse, bien de femmes ont dit leur désir de pouvoir se consacrer à une vie tout entière, si je puis dire, relationnelle avec leurs enfants, notamment de s'occuper en profondeur de l'éducation du cœur et de l'esprit de leurs enfants, et n'ont pas eu le courage de le faire à cause du regard des autres. Parce que dans les repas d'amis, je dirais plutôt les repas mondains, celui qui ne travaille pas n'a rien à dire, évidemment. Il est insignifiant. Ça, elles ne supportaient pas, et donc elles agissaient contrairement à leur cœur. Et elle se privait d'un chemin d'intériorité. Moi, je m'en suis battu avec certaines, le cacher, parce que bon. Mais ça suppose aussi que soi-même, en tant que prêtre, on ne se perd pas dans l'apostolat. On ne met pas l'apostolat en premier. Que réellement, on reste d'abord dans cette conviction que notre vocation première, c'est d'être un ami de Jésus. Ça, c'est le langage de Pierre Goursat. L'amitié avec Jésus, c'est le langage aussi de Benoît XVI. Détachement par rapport aux œuvres, on y reviendra, détachement par rapport au regard des autres, ça c'est lié, évidemment. Jésus reproche aux pharisiens d'offrir aux yeux des apparences de juste. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle. L'homme est une coupe, un vase, quand l'intérieur est rempli par rapine et tempérance. Pharisien aveugle, purifie d'abord l'intérieur de la coupe de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. De penser qu'on peut passer toute sa vie sur terre à bichonner son personnage, et quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, ça c'est une des choses qui m'a le plus frappé, j'arrête pas de le redire, et qu'on se retrouve à nu là, comme ça, il n'y a plus tout le décor, si je puis dire, Hein, qu'on prend conscience de la vanité de sa vie et qu'on reste que quelques jours encore à vivre, ben là on souffre. Parce que c'est possible de passer tout le temps à côté de l'essentiel. Retrouvez, par rapport à ça, mes amis, retrouvons le sens de la crainte du Seigneur. Moi, ça m'a sauvé à certains moments importants de ma vie, de me dire, comme saint Paul, mon juge, c'est le Seigneur. Que m'importe le jugement des hommes? Pourquoi? Parce que mon juge, c'est le Seigneur. Et même, je ne me juge pas moi-même, parce que mon juge, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il juge quoi? Il juge le cœur. Il juge selon le cœur. Il juge de nos actions, selon le cœur. Et donc je dis que la crainte de Dieu, au sens de se situer devant le regard de Dieu, notre unique juge, est libératrice. Elle nous libère de la crainte des hommes. L'image de l'arbre avec le cœur à sa racine, qui est comme racine, qui est le cœur comme lieu d'ouverture à Dieu, nous aide à comprendre que c'est une affirmation traditionnelle, la foi est la base de tout, on y reviendra, de tout l'édifice de notre vie. Parce que la foi, c'est essentiellement l'ouverture du cœur. Et que la foi ne sera jamais quelque chose d'évident, de naturel. Parce qu'il ne sera jamais évident et naturel pour l'homme marqué par le péché originel de se recevoir d'un autre, de s'ouvrir à un don gratuit. Il est nécessaire, comme dit Benoît XVI, de sortir de ce rêve qu'est l'autosuffisance, de ce profond repliement sur soi qui génère l'injustice. Et donc ça veut dire aussi, vous voyez, que le premier combat dans notre vie sera toujours le combat de la foi. Il faudra revenir sans cesse à ce combat-là. Combat de la foi et de l'espérance. L'espérance dit l'orientation. L'arbre, par ses racines, il s'ouvre à l'eau vive et en même temps il se tourne vers le courant. Il tourne ses racines vers l'eau. Naturellement, il le fait. Les racines sentent là où il y a de l'eau, elles se tournent vers l'eau. Ça, c'est l'espérance. L'homme, il est fait pour être ouvert et tourné vers. Foi et espérance, la base de notre vie. À partir de là, il peut trouver le chemin de l'amour. La foi, l'espérance et l'amour sont intimement liés dans notre vie. Il ne craint pas une année de sécheresse. Quand on garde au fond de son cœur la foi, la confiance et une espérance, on sent une eau vive qui nous traverse. On sent qu'il y a une force intérieure. Que de gens me l'ont témoigné, des gens atteints par le sida, des gens brisés par le divorce, de sentir qu'il y avait quelque chose qui les retenait, quelque chose qui les empêchait de se donner la mort. Quelque chose qui les traversait. Ça, c'est parce que, au fond de leur être, la racine restait en contact avec le courant d'eau vive. Je redis que rien, jamais, ne pourra nous empêcher de rester en contact avec l'eau vive, que tout dépend de ce contact. Nous n'avons à avoir peur de rien. En tout, nous sommes vainqueurs, comme dit saint Paul. Grâce à ce contact, il y a la puissance de la grâce nous traverse, qui transforme tout. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Pensons au bienheureux Jean-Paul II. Pensons à Benoît XVI. Pensons à tous les saints qui ont traversé les plus grandes épreuves, les plus grandes difficultés, avec la simplicité de l'enfant, un cœur ouvert, une espérance aveugle par la puissance de la miséricorde divine et qui finalement ont été les grands vainqueurs. Et aussi ceux qui ont pu réellement réformer quelque chose dans le monde, changer quelque chose dans le monde, en profondeur, à partir de leur vie intime. Moi, stupide comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Nous sommes toujours reliés à Dieu au plus profond de nous-mêmes, si nous le voulons. Il est là, présent. Moi, stupide comme une bête, je me débattais avec mes problèmes. Je ne savais pas que tu es toujours avec moi. Je ne savais pas que je pouvais puiser en toi. Si vous le voulez, nous allons achever notre méditation en prenant le psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni même veille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, nous et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.